bienvenue dans cette nouvelle émission de notre série consacrée à la thématique de l'histoire, l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal. Et nous sommes, c'est une habitude, en compagnie de Jacques Grasser. Bonjour.
Bonjour à tous.
Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et avec vous, nous avons commencé cette série où nous parlons actuellement des forts et plus particulièrement les fortifications qui encerclent Épinal et qui ont été bâties à partir de 1870 et qui ont connu avec les âges des évolutions, des améliorations. Nous sommes en train de parler de ce qu'on appelle les collatéraux, donc le fait qu'il y ait eu évidemment des soldats qui sont venus, une quantité importante d'hommes qui sont arrivés sur le territoire. Et je voulais savoir si cela avait eu un impact également sur le territoire à proprement parler d'Épinal, ou est-ce que c'est finalement juste les soldats sont restés dans le cadre de l'armée et ne se sont jamais vraiment mêlés à la population.
Oui, alors je vais faire un clin d'œil, c'est le bonheur des cafetiers. Il n'y a jamais eu autant de bistrots à Épinal. Alors c'est pas seulement l'armée, c'est aussi des usines. Il suffit de regarder encore aujourd'hui dans le quartier du Champ du Pin, du Champ Beauvert, ce qui reste là. Alors généralement, ça n'existe plus. Mais enfin, on s'aperçoit quand même qu'il y avait pas mal d'établissements comme ça, sans aller plus loin dans ce genre de dérapage, on va dire. Mais bien sûr, ça suscite de nouveaux métiers. Je parlais des communications. On va quand même inventer dans l'intervalle la radio. Donc la TSF, la télégraphie sans fil, téléphonie sans fil. On va inventer le téléphone. Tout ça, ça suscite évidemment de nouveaux métiers, de nouveaux bâtiments, etc., etc. Dont on voit d'ailleurs encore sur le fronton de ces bâtiments encore le réseau, le télégraphe, le téléphone, qui sont inscrits sur les immeubles. Il suffit de regarder la poste routière, par exemple, pour le voir. Et donc ça va susciter des véritables inventions. On a par exemple à Épinal, on a créé, pour en terminer avec l'armée proprement dite, on a créé le terrain d'aviation de Donnierville, donc l'ouverture de 1910-1911, avec une première escadrille militaire d'avions Farman, Maurice Farman, de type 5 pour être précis, dont on a des photos. Donc sa première aviation militaire, c'est un terrain d'aviation militaire. Les quatre places de l'Est sont munies toutes d'un terrain d'aviation militaire. Et puis, c'est aussi l'arrivée de dirigeables. Alors, on a des ballons captifs d'observation, dirigeables à la Louvroy, donc à la frontière Golbet-Chantraine, sur la route des Forges, avec en permanence deux dirigeables à Épinal. C'est d'énormes engins, avec d'énormes hangars. On a là aussi des photos, dont le capitaine Ferber en particulier. C'est quelque chose d'énorme. Et puis, alors c'est de l'observation aussi. Après, ils feront quelques bombardements, mais enfin, c'était quand même un peu secondaire, un peu comme les Zeppelins allemands à l'époque. Et puis, on a les communications avec la TSF, avec la construction, aux alentours de 1910, des quatre antennes MAP de Chantraine, à la Sens Bio, donc tout en haut de Chantraine. Donc, les quatre pylônes avec des antennes entre les pylônes, donc c'est pour ça qu'on parle d'antenne MAP, en liaison directe avec la Tour Eiffel. Il faut se rappeler que la Tour Eiffel a été conservée à Paris, elle devait être démontée, elle a été conservée à cause de l'invention de la radio, et c'est l'armée qui a insisté pour garder cette antenne-là en liaison directe avec les quatre places fortes de l'Est de la France. Nous avons sauvé la Tour Eiffel, on ne le sait jamais, mais enfin, voilà.
Oui, puis il faut rappeler que la Tour Eiffel a été construite finalement peu de temps après la guerre de 1870.
C'est le centenaire de la Révolution, voilà.
C'est ça.
Et puis le réseau de téléphone, et pour l'anecdote, je me rappelle qu'il y a une trentaine d'années maintenant, plus de 30 ans, 35 ans, on faisait la reconstruction de la rue Lormont, donc on refaisait ce qui est tel qu'elle existe aujourd'hui maintenant. Et l'entreprise a eu une émotion, puisqu'à un moment, la pelleteuse a détruit des câbles téléphoniques. Donc, grande émotion, en fait, c'était les câbles téléphoniques de la place forte d'Épinal. Donc, ils n'étaient plus du tout, évidemment...
En service.
En service. Mais enfin, sur le coup, le pelleteur a dit, j'ai fait une bêtise, quoi. Voilà. Donc, le téléphone, alors tout ça, c'est effectivement de nouvelles unités militaires, de nouveaux métiers, de nouvelles fabrications, bien sûr, voilà. Ça suscite... Et localement, évidemment, aussi. Alors, il y a peut-être, on va peut-être en terminer là, avec une note un peu plus joyeuse que les ces relents de guerre, c'est que chaque régiment, aujourd'hui à Épinal, quand on a Saint-Nicolas, et puis à d'autres cérémonies, on fait défiler la fanfare Nouba. La fanfare Nouba avec le bélier qui va défiler devant la fanfare Nouba, Messaoud 6, comme on l'appelle. Et donc, aujourd'hui, bon, c'est une musique militaire, c'est très rare. Hein, je crois qu'il y en a deux en Lorraine, hein, en tout et pour tout. À l'époque, à Épinal, on avait une musique par régiment. Donc, on a eu jusqu'à 5 régiments, on avait 5 musiques, dont une fanfare à cheval avec le 4e chasseur à cheval. Non, c'est considérable, il faut imaginer le 14 juillet. Plus d'effectifs qui défilent à Épinal en 1914, plus le double d'effectifs sur les Champs-Élysées en ce moment, le 14 juillet. Hein, avec toutes ces musiques, et ces musiques qui font des balles populaires, qui jouent au kiosque, pas seulement de la musique militaire, hein, mais qui jouent de l'opérette, etc., etc. Beaucoup de balles, effectivement. Hein, et on ajoute à ça, dans la vie musicale, il faut ajouter à ça toutes les musiques, alors civiles déjà, mais aussi les musiques d'usine. Toutes les grandes usines possèdent une musique. Ça permettait d'éviter que les ouvriers aillent faire d'autres choses. Hein. Et donc, musique, même la compagnie de l'Est, hein, la compagnie de chemin de fer, a sa musique. Hein. Donc, c'est une ambiance, c'est un aspect que j'aime bien développer, parce qu'il faut essayer de comprendre les sons que l'on entend dans une ville comme Épinal à l'époque. Il n'y a quasiment pas de voiture automobile. Hein. Donc, tous les sons que l'on entend aujourd'hui, de moteurs, etc., etc., ça n'existe pas. Hein. Et donc, on a effectivement, vous allez avoir les chevaux qui vont passer. Hein. Donc, c'est un son tout à fait différent d'aujourd'hui. Hein. C'est quelque chose de tout à fait remarquable qu'il faut avoir un petit peu en tête pour avoir un petit peu l'ambiance de la ville telle que ça se présente à la fin de cette période de construction du camp retranché d'Épinal.
En tout cas, ça fait de belles images dans la tête et des populations qui... Parce qu'on s'approche finalement de 1914, mais pour autant, les populations n'ont pas le sentiment d'une guerre qui approche non plus.
Alors, bon, c'est variable. On voit bien que, de toute façon, les relations avec l'Allemagne sont quand même un petit peu nerveuses, on va dire. Il y a des incidents de frontières, il y a des incidents sur les colonies, pensons au Maroc, par exemple, avant 1914. Donc, il y a des rivalités, il y a des alliances qui se sont établies, hein, l'entente cordiale avec l'Angleterre, puis la Russie, alliée de la France. Enfin, il y a des constructions qui se mettent en place, l'Autriche-Hongrie du côté de l'Allemagne, hein, le rôle éventuel du Japon qui va venir de l'autre côté, l'Italie, hein, on ne sait pas trop comment elle va basculer, etc. Mais au début du mois de juillet 1914, il n'y a pas de menace directe. On le voit très bien. Par exemple, le 149e régiment d'infanterie d'Épinal s'en va au Val d'Aon, au mois de juillet, pour aller manœuvrer, pour aller s'entraîner. S'il y avait eu une menace imminente de guerre sur la crête des Vosges à 40 km d'Épinal, il ne serait pas foutu le camp dans le Jura. Mmh. Hein, voilà. Donc il va être rappelé tout de suite. Mais il n'empêche qu'il est parti. Hein, et il revient. Moi, pour l'anecdote, ma grand-mère, qui était originaire du village de Guisheim, à côté de Colmar, tous les étés, elle allait avec les enfants, avec mon oncle, avec mon père, etc. Elle allait en vacances chez sa maman à Guisheim. Elle est partie au mois de juillet, comme si de rien n'était.
Donc il y avait aussi des mouvements de population pour les vacances, etc.
Ben, évidemment, bien sûr. Mm-hmm. Elle allait en Allemagne, hein, puisque l'Alsace, c'était...
C'est ça.
Et malheureusement, des enfants est mort d'une méningite subite. Le temps de l'enterrement, la frontière était fermée. Ils sont restés coincés là-bas pendant 4 ans.
Parce que c'était la période de déclaration de guerre.
Donc, mon grand-père était ici à Épinal, mobilisé comme officier d'infanterie. Et puis, ma grand-mère et les 3 gosses survivants étaient à Guisheim, de l'autre côté de la frontière. Voilà.
C'est une anecdote intéressante, d'autant qu'elle montre, je ne vais pas dire l'inconscience, parce que ce n'est pas de l'inconscience, mais c'est qu'on n'imaginait pas que ça puisse arriver quelque part aussi vite, parce que les frontières se sont fermées très rapidement.
On en est là aujourd'hui, hein, qui imaginait au mois de février dernier les problèmes de l'Ukraine, hein, après tout. Hein? Donc voilà, c'est vrai que ça éclate. Et si j'ai une recommandation à faire d'ailleurs à nos auditeurs, c'est d'aller, à propos des problèmes de l'Alsace et de la Moselle, c'est d'aller à Schirmeck, à la sortie de Schirmeck en direction de Strasbourg. On a sur la gauche de la vallée le mémorial d'Alsace-Moselle qui raconte effectivement la vie quotidienne, la vie des familles qui ont changé 4 fois de nationalité en même pas un siècle. Et ça, c'est quelque chose de très formateur pour comprendre un petit peu certaines mentalités. Hein, et je le conseille parce que c'est remarquablement bien fait et on n'en sort pas quand même indemne. Hein, ça permet de, quand même de réfléchir, d'autant plus qu'on a quand même beaucoup de nos concitoyens ici à Épinal, comme à Saint-Dié, comme à Charmé ou ailleurs, hein, dans les Vosges, dont une partie de la famille est originaire d'Alsace.
C'est vrai.
Donc ça peut être formateur. Voilà.
Donc c'est une invitation à la découverte. De quoi pourrait-on parler la prochaine fois ?
Ben, je crois que il faudra peut-être qu'on commence la guerre. Mmh. Hein, c'est-à-dire que l'on voit un petit peu quel a été le rôle d'une forteresse comme Épinal pendant la guerre. Donc le temps d'immobilisation, les transferts de population, etc. Je pense que ça peut être effectivement un aspect intéressant. Alors pas toute la guerre, hein, parce qu'après ça devient, je veux pas dire monotone, mais enfin il se passe plus rien directement. Hein, ça, on est dans la routine un petit peu. Mais le début de la guerre 1914, c'est intéressant, de la même façon que la fin de la guerre d'ailleurs. Et puis peut-être on peut pousser jusqu'en 1940.
Eh bien voilà, donc je vous propose qu'on se retrouve très prochainement pour évoquer ces thématiques avec vous, Jacques Grasser. Je rappelle, vous êtes agrégé d'histoire et avec vous, nous faisons la présentation de ces constructions, ces fortifications autour d'Épinal et à travers le département et donc de leur usage. À très bientôt.
À très bientôt.